une première question sur l'utilisation des sources.
Oui.
En fait, donc vous avez du manuscrit ADN.
Ça, c'est peut-être un point général intéressant sur les sources. Tu me corriges si je explique pas bien.
Oui.
C'est vraiment une source intéressante qui existe beaucoup sur le 18e et 19e siècle. Je ne sais pas du tout si ça va sur le 1er 20e siècle ou non. C'est en fait les documents qui sont imprimés mais en petite quantité. Par des avocats notamment ou d'autres participants des procès, parce que ça peut être vraiment des mémoires d'avocats, ça peut être des retranscriptions d'expertise ou d'un premier jugement d'un petit appel, etc. Donc on peut en trouver un morceau qui raconte un petit morceau d'un procès, et dans certains cas, comme pour Erika, où là c'est vraiment particulièrement magnifique, mais dans d'autres cas on peut en avoir une dizaine sur un même procès. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que dans le catalogue informatisé d'ABN, ils sont décrits un par un de façon souvent assez précise. C'est-à-dire qu'il y a souvent une partie des noms des parties, des avocats, une explication de à quel tribunal on se trouve, à quel moment, voire des mots matières qui indiquent de quoi ça parle en termes juridiques.
C'est des mots produits.
Voilà.
Les avocats,
les intervenants du procès.
Vous retranscrire une partie du procès
ou
vous
donner leurs arguments.
Oui, c'est plutôt les arguments de ces parties. C'est les plaidoiries ou des pièces à l'appui. Et donc, quand c'est des pièces à l'appui,
la plaidoirie. Au jugement
commercial. Non,
non, non,
c'est
une
voilà.
C'est une procès criminelle.
Voilà.
Parce que c'est une banque russe frauduleuse.
D'accord.
Ou pas, mais...
Oui, mais c'est comme ça que les...
C'est une question de
la banque frauduleuse. Donc, elle est partie personnelle de Mianette.
De
banque. Au Caire, à Roubaix.
Oui.
Alors, déjà, comment ça se fait qu'ils ont été déposés là-bas?
Alors, je pense que c'est le descendant de Isaac Perret qui a donné les documents à l'Archive nationale. J'ai reçu l'autorisation de Daniel Perret pour consulter des archives.
D'accord.
Donc,
comme lui intervient,
il est mis en cause.
Donc, du coup, il a, je sais pas combien de cartons.
22.
Ouais,
ça correspond non
parce que je me disais,
Et du coup, le genre de document, c'est des lettres à ses avocats,
D'accord. Donc là, pour l'instant, on n'a que des sources extérieures. Il y a aussi une source sur le déroulement du procès.
C'est compliqué parce que les facteurs,
aux archives du par exemple, de...
Les journaux de Gouron a suivi complètement le procès Donc, il y a une transcription tout à fait complète des procès.
En fait, les procès, ils ont lieu à plein d'endroits différents. C'est un des problèmes. Mais donc, comme au départ, l'histoire se passe à Rouen, apparemment, les journaux de Rouen
sont vraiment intéressés par cette histoire.
Mais tu as dit sur la question de ce qui se passe, de ce qui serait officiel du type des jugements, etc.
Dans les types d'archives, pour savoir vu beaucoup d'archives de Paris.
Oui.
Il y a quelques dossiers d'archives de Paris. Parce que j'ai utilisé, je pense, les archives de Paris, le dossier de faillite.
Pour
quelques correspondants de François Desmiens.
C'est ça qui est, je trouve, une des choses très intéressantes dans ce cas aussi, c'est qu'on arrive à trouver des sources sur les différentes personnes impliquées autour.
J'ai trouvé les dossiers un peu par hasard.
Comment ça se fait?
J'étais en train de lire les dossiers pour une autre chapitre, et donc j'ai trouvé les noms François Desmiens ou Jean Polac, ah. Donc après
Mais sinon, c'est vrai que sur un des problèmes des archives judiciaires, que sur la civile, criminelle, le commerce, etc., donc, par le fait qu'elles ne sont pas toujours conservées et encore moins indexées, c'est que souvent, ce que tu retrouves comme pièce écrite conservée, c'est des jugements. Les jugements en eux-mêmes, il y a souvent d'autres endroits, quand c'est au moins des affaires importantes, où tu les trouves sous une forme plus sympa, c'est-à-dire imprimée, quoi. Donc c'est l'intérêt de l'avoir dans le journal grand plutôt que d'aller dans la cour criminelle de Rennes. Et entre autres, dans les FACTA, souvent quand l'affaire a plusieurs rebondissements, ils peuvent citer très extensivement ou totalement le produit jugement pour le codifier l'appel.
C'est tout ça aussi. Voilà. Je vois la source comme ça, mais justement, c'est tout ce qui est assis, c'est pas autour des...
En fait, c'est quand même beaucoup de sources, quoi. C'est différent, même si déjà les facteurs étaient énormes.
Sur la culture
de
la vie en tout cas, enfin, c'est pas totalement convaincu. Mais d'autant que là, il y a vraiment des regards croisés de sources. Là, on frappe son sens. C'est-à-dire qu'une micro-histoire, pour répondre à cette question-là, qui nous demande de... Je comprends très bien cette hésitation pour avoir moi-même été dans cette position, je me dis, est-ce que finalement ça a un intérêt et là, c'est vraiment le troisième qui donne du coup, je pense que c'est intéressant, une seule source que tu suivrais. Là, c'est intéressant quand même, souvent. Mais là, vraiment, il y a un côté où tu parles dans d'autres directions et tu arrives aussi par plusieurs voies.
Si tu as donné des arguments. C'est-à-dire qu'on voit ce que les gens disent.
Ce qui est intéressant dans les sources judiciaires, je trouve que là tu montres bien, c'est qu'on a à la fois quand même des éléments sur des comportements qu'on peut pas savoir exactement ce qui s'est passé dans cette banque, mais on peut reconstituer beaucoup de choses et mélanger avec les argumentations, les jugements moraux, enfin donc c'est une source multiplement utilisable.
Mais tu sais, moi, ce qui m'avait frappé en travaillant sur les livres de marchands, c'était exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que les livres de marchands disent, c'est très bien d'avoir des livres de compte bien tenus, mais c'est pas important.
Oui.
Ce qui compte, c'est d'être gentil avec tes visiteurs, parce que les jours où vous allez tomber en faillite, vous aurez envie qu'on soit gentil avec vous. Donc, il y a tout un discours de la mathématisation, en quelque sorte, de l'économie. Et puis derrière, il y a tout un discours qui dit « tout ça c'est impossible, la seule chose qui compte, c'est la charité chrétienne ».
Oui, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de petits commerçants qui ne savaient pas comment...
Cela dit, je pense qu'il y a aussi un troisième terme, en fait, entre la mathématisation et la charité chrétienne, c'est l'idée des comptes qui sont bien tenus, dans le regard du tribunal ou d'un expert, pas parce qu'ils sont riches ou compliqués, mais parce que c'est bien écrit, la faille est propre et tout. Et en fait, là, c'est plus une expression de vertu, enfin, c'est ce que raconte beaucoup Amalia Kessler pour le 18e siècle, mais je l'ai retrouvé un peu dans des rapports du 19e aussi, quoi. L'idée du type qui n'est pas très effectivement bon en comptabilité, mais qu'il a fait du mieux possible, ou ça montre sa personnalité honnête, quoi.
La bonne foi.
Voilà, tout à fait. C'est considéré comme un indice de bonne foi aussi, la façon de tenir, mais c'est pas dans l'épure des manuels de comptabilité.
Est-ce que dans les arguments qui ressortent, il y a également le poids d'un développement de l'économie, c'est-à-dire que il faut atténuer le risque pour que les gens reprennent.
Oui, en fait, mais pour le plus part, les gens avaient vraiment du mal. Donc, par exemple, je ne sais pas, je peux chercher le page. Parce qu'il y a en même temps une connaissance du changement de l'économie, mais une résistance à accepter que les changements doivent vraiment changer le moral de commerce. Donc, par exemple, page 29, the ambition to quickly make a fortune, that is the curse of our age, and an epic not too long ago, one judged with too great disdain, then commerce was a hereditary profession, one needed a man's lifetime, sometimes more to count fortune. The head of the family bequeathed to his children a wealth that was laboriously acquired, but which had not cost any sacrifice of honor. Donc, il n'y a pas une chance vraiment très très profond de changements exacts dans l'économie, mais en même temps, il y a une connaissance des changements de ce qui était dans le commerce.
Et ça, pour revenir à ce que tu dis sur les livres bien tenus, il y a une législation sans cesse autour du fait que les gens doivent bien tenir leur mise au compte. Hein. Mais si tu regardes les résultats, et son truc est particulièrement clair, au fond, c'est pas facile à compter. Malgré la législation et la volonté, tu vois, c'est ça que... Et donc, je n'ai pas vu le travail de cette personne, mais il faudrait voir à chaque fois en quoi ça a influencé ou en quoi c'est un discours qu'on voudrait...
En fait, là, c'est un cas vraiment intéressant, puisque finalement, si je comprends bien, c'est le fait qu'il n'ait pas su tenir ses comptes est un des indicateurs du fait qu'il était manipulé, donc qu'il n'est pas responsable, donc ça joue pour lui, en fait, voilà. Mais ce que raconte la Maria Kessler, c'est vraiment basé sur des archives précises du tribunal de commerce de Paris, mais ça n'est pas forcément généralisable en tout temps, en lieu et en tout type d'affaires, mais c'est des cas où vraiment, comme on ne sait pas trop, chacun a des torts, etc., le fait qu'il y en ait un qui tienne mieux ses comptes, c'est la preuve que c'est celui qui est le plus sympathique et de bonne foi, et hop, il gagne.
Et donc il gagne, c'était ça parce que je ne savais pas.
Mais bien tenu, ça ne veut pas dire en sens forcément suivre les ordonnances, c'est plus un jugement de... qualité presque morale qui avait toujours.
Et là, il faudrait voir aussi à quel niveau de la société marchande j'ajoute.
Oui, tout à fait.
Parce qu'il y a
c'est très différent quand tu fais ça. Ce qui est impressionnant sur l'histoire de tenir des comptes, c'est quand même grosse banque en fait, même si c'est très bizarre. C'est pas tout à fait pareil qu'un boulanger y était.
Voilà. De cette banque, souvent les livres, par exemple.
Oui. Je ne pense pas.
Moi, je suis toujours fasciné par les collecteurs parce qu'on effectivement rentrait dans les mains et les cœurs des acteurs. C'est très intéressant. Mais quand même, pour faire appréciation les conséquences de tout ça, ce serait bien d'avoir des renseignements un peu autour de l'affaire. Et il y a trois types de choses sur lesquelles je serais intéressé de savoir si vous avez quelque chose. La première, c'est est-ce que ça a des conséquences juridiques ou législatives, est-ce que c'est un cas qui est repris ensuite, soit dans les manuels, soit dans les jugements, en disant bah, vous voyez, c'est comme ça que ça marche dans les affaires commerciaux-criminelles, si c'était le cas, bah, ça nous rassurait, parce que ça veut dire que les gens ont pensé que c'était important et qui pique et réutilisable. Si c'est pas le cas, soit ça nous inquiète, soit il nous faut des raisons de penser que, bien que ce soit pas le cas, c'était quand même typique, parce qu'en fait, il y a des affaires qui vont changer, qui servent ces premiers points. Le deuxième point, c'est combien dans l'échantillon, quelle est la taille de la population, et combien on a de procès comparables à celui-ci durant cette période-là, juste pour avoir une idée de est-ce qu'il y en a deux comme ça, et donc forcément c'est important, ou est-ce qu'il y en a 42 en France, et en conséquence,
il faut voir combien il y a de
grosses
banques. Combien il y a de grosses banques, il ne doit pas y avoir beaucoup de grosses banques.
Ah, en fait.
Si c'est le seul cas pendant 15 ans, c'est formidable.
Sans doute pas, mais.
S'il y a 10 cas,
mais ça dépend de.
Les sources que vous citez, notamment les sources dans les journaux, j'ai pas vu de sources de journaux nationaux ou de journaux non spécialistes.
Oui, il y a quelques.
Qui passent allusion à ça, et si vous en aviez, ce serait très précieux.
Oui, je sais, j'ai cherché, mais.
Et s'il n'y en a pas, il faut se demander, enfin, il faut se demander la question pourquoi il n'y en a pas. Et pourquoi est-ce que ça empêche pas d'en tirer des conclusions de
quelque chose? Oui. Je suis tout à fait d'accord, en fait. Mais quand c'est la question des procès comparables, je me demande ce que tu veux dire par procès comparable, parce que c'est le procès de banquerie frauduleuse, je peux chercher le statistique pour ça, mais je pense que vraiment, il y a, en fait, les gazettes des tribunaux, pendant cette époque, nous donne beaucoup d'exemples des banqueries frauduleuses très scandaleuses, comme celui-ci. Est-ce que c'est plutôt la question d'une grande banque Une pensée comparable
par rapport plus d'enseignements, c'est mieux. Combien il y a de bandes frauduleuses par an? Il y a combien des gens qui sont là sur la table? Moi, je sais pas.
Je pense que...
combien il y en a de banques?
Si dès qu'on rentre dans combien il y en a de banques, il y a déjà plus de réponses, mais on peut se faire une idée, quoi.
Après,
c'est vraiment passionnant, parce que la question, c'est combien il y en a comme ça, et ça veut dire comme ça.
Ça amène à affiner
le truc, la question, c'est parce qu'effectivement, il y a à la fois l'aspect scandaleux, y compris moral. Oui.